Chers auditeurs de Radio Courtoisie, très heureux de vous retrouver en ce libre journal des amitiés françaises de ce dimanche 26 juillet. Comme à l'habitude, eh bien, nous avons deux parties, toutes les deux en direct. Nous recevons tout d'abord Denis Chiroux, que vous connaissez bien, qui est essayiste éditeur, à l'occasion de la publication de son livre aux éditions Bleu Nuit éditeur Karl Orff. C'est la deuxième émission que nous consacrons à ce grand compositeur. Et puis à 19h30, nous avons le plaisir de recevoir Hervé Rebbi, qui est président du Centre culturel juif Yavne de Bordeaux, dans le cadre de cette série d'émissions que nous consacrons à l'histoire de la religion juive. Et ce soir, eh bien, ça sera la suite de l'émission précédente. Nous allons plus particulièrement parler du Talmud, le Talmud qui a été mis progressivement en place entre le 1er et le 5e siècle après Jésus-Christ à Jérusalem, mais aussi à Babylone après la destruction du deuxième temple. Nous avons le plaisir, chers auditeurs, et la faveur d'avoir Laurent au standard pour prendre vos messages, vos questions que nous proposerons à nos invités. N'hésitez surtout pas à le solliciter. Je rappelle le téléphone de la radio à cet effet, 01 46 51 0085, 01 46 51 0085, ou alors par courrier électronique courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Et nous abordons maintenant donc la première partie de cette émission. Comme je vous le disais, nous avons reçu récemment Denis Chiroux pour une première émission à caractère musical consacrée à l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle. Il s'agit de l'Allemand du Bavarois Karl Orff. C'est un personnage qui est controversé mais méconnu tant pour sa vie que pour son œuvre. En Bavière, Karl Orff est un héros national, mais pas en France, hein. Naturellement, car si son opéra Carmina Burana est bien connu et naturellement réputé, il a d'ailleurs écrasé le reste de son œuvre, cet auteur nous demeure largement méconnu. Denis Chiroux, lors de notre première émission, avait présenté la première partie de la vie de Karl Orff, en gros jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et la création, bien sûr, donc, de cette pièce, cette œuvre musicale mondialement connue, qui est donc Carmina Burana. Or, la vie de ce compositeur va bien au-delà de ses années de guerre, car il produit jusqu'à sa mort des œuvres originales, intéressantes, belles, qui méritent notre intérêt, ou pour le moins, d'être connues. C'est ainsi qu'a germé l'idée d'une suite, car nous nous étions arrêtés en effet à la Deuxième Guerre mondiale et à Carmina Burana. C'est ainsi qu'a germé donc l'idée d'une suite à l'occasion d'une émission musicale sur Karl Orff au-delà de Carmina Burana. C'est le titre d'ailleurs de cette émission. Et c'est ainsi, chers auditeurs, vous avez compris, nous avons le plaisir de recevoir Denis Chiroux pour nous parler de la deuxième partie de la vie et des œuvres de Karl Orff. Denis Chiroux, bonsoir.
Bonsoir Thierry Delcourt.
Merci beaucoup d'être avec nous en ce dimanche estival, ce dimanche de juillet. Je vous présente quand même, en quelques mots, aux auditeurs de Radio Courtoisie. Ils vous connaissent bien, Denis Chiroux, parce que vous avez été un patron d'émission pendant de longues années, de 2003 à 2007. Vous avez été même, au-delà de ces années, le suppléant du Libre Journal des Amitiés Françaises, ce qui n'est pas rien. Il faut le préciser. Et puis vous êtes essayiste et éditeur, vous êtes un spécialiste de la théologie politique, vous avez édité entre 1996 et 2025 la lettre d'information « Chrétien dans la cité, le mensuel et les livres transmettent ». Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur tous ces thèmes d'ailleurs, mais je voudrais tout particulièrement citer un ouvrage qui fait l'actualité. Et cet ouvrage, c'est Frère Laurent de la Résurrection, le cordonné de Dieu. Et vous avez aussi écrit une édition, vous avez publié, pardon, une édition de ses écrits, des écrits de Laurent de la Résurrection sous le titre Vive la présence de Dieu. Alors c'est très d'actualité, j'espère que l'annonciature, Denis, a pensé à vous inviter en septembre, parce qu'il paraît que Léon XIV, le pape Léon XIV, lors de sa visite en France et à Paris, visiterait le couvent de frère Laurent.
Oui, effectivement.
Êtes-vous au courant de cette visite, hein?
Léon XIV a déclaré que Laurent de la Résurrection était son maître spirituel. Et d'ailleurs, les œuvres de Laurent que j'avais éditées il y a quelques années viennent d'être rééditées il y a quelques jours, en fait, dans une collection de poches, donc toujours sur le titre « Vive la présence de Dieu ». Donc ça sera peut-être l'occasion pour certains Français de découvrir cet auteur qui est peut-être davantage connu aux États-Unis qu'en France.
Le pape Léon XIV lit le français. Avez-vous pensé à renvoyer vos deux livres?
Pape. Non.
Vous devriez le lire avant septembre. Hein? Il pourrait demander ce que vous soyez présent. Hein, dans ce... Où se trouve ce couvent d'ailleurs?
En fait, il se trouve maintenant, c'est l'église Saint-Joseph des Carmes qui est à côté de l'Institut catholique de Paris. L'Institut catholique de Paris a été construit au XIXe siècle, mais sur l'emplacement de l'ancien couvent de Vaugirard. Et à l'époque, Vaugirard était encore dans la campagne, au grand siècle. Et donc, mais le couvent, il n'en reste rien sauf cette église. Donc.
Alors Denis, je vous propose que nous en revenions au thème principal de cette émission, qui sera une émission musicale, parce que vous avez préparé pour les auditeurs un certain choix d'œuvres de Karl Orff, bien sûr, qui suivent hein, le sommet qui est Carmina Burana. Je vous propose dans un premier temps que vous résumiez la vie de Karl Orff, vous nous rappelez sa vie, en effet, sa jeunesse, et puis jusqu'à ce moment où il compose sa pièce majeure, donc Karl Orff.
Alors oui, Karl Orff est un Bavarois, qui est né à Munich donc en 1895 et qui est mort à Munich en 1982. Quand on lui demandait de se présenter, il disait « Je suis un Bavarois ». Il a été un compositeur très précoce, puisque son premier opéra a été composé alors qu'il n'avait que 17 ans. Et c'est un opéra qui présente encore un intérêt, même s'il n'a pas été joué du vivant de Karl Orff, mais il a été joué après sa mort. Et les musicologues ont salué, malgré quelques faiblesses dues à sa jeunesse, vraiment un talent évident. Après, il a commencé à composer des leaders dans le style post-romantique qui était propre de son temps. Il était aussi un grand admirateur de Debussy. Voilà, il y a eu la guerre où il a été gravement blessé. Après la guerre, il a participé à des œuvres théâtrales. Et puis, dans les années 20, il a élaboré une pédagogie musicale qui est connue sous le nom de Orff-Schulwerk. Qui est une méthode d'éducation musicale pour les jeunes enfants. C'est une méthode qui est toujours pratiquée dans de très nombreux pays du monde, y compris en France. Vous avez une association Karl Orff qui organise des stages de formation pour les éducateurs. Et puis, dans les années 30, c'est là qu'il va composer l'œuvre qui va faire connaître du grand public, donc Carmina Burana, à partir de textes de poèmes du Moyen-Âge, en 1937. Alors c'est une œuvre qui a été critiquée par les nazis spécialistes, les critiques nazis en matière musicale, mais qui va rencontrer un grand succès populaire et qui finalement va être jouée. Et ce succès ne s'est pas démenti, puisque actuellement Carmina Burana est l'œuvre la plus jouée dans le monde après le Boléro de Ravel. On peut dire quasiment tous les jours Carmina Burana est jouée dans un pays du monde, sur tous les continents. Donc voilà. Et donc on en arrive à la suite de Carmina Burana, évidemment.
Pardonnez-moi Denis, oui. J'aimerais vous poser deux questions. Carmina Burana écrase tout le reste de son œuvre, êtes-vous d'accord avec cela?
Oui, surtout en France.
Peut-on le regretter d'ailleurs, c'est un peu le corollaire de ma question.
Oui, mais vous savez, ça peut arriver que des musiciens ou des romanciers ne soient connus que pour une seule œuvre. Alors, les œuvres dont on va parler aujourd'hui sont connues en Allemagne ou dans d'autres pays, peut-être davantage en Europe centrale d'ailleurs. mais certains sont encore joués assez régulièrement et je pense que ce serait intéressant effectivement pour tous nos auditeurs qui veulent découvrir un compositeur méconnu de découvrir ses œuvres. On peut quasiment trouver toutes ses œuvres sur Internet, hein, parfois dans vraiment des interprétations historiques, donc c'est pas très compliqué de s'y
En tout cas,
référer.
c'est tout l'objet de cette émission ce soir, c'est de nous faire découvrir l'autre Karl Orff, après justement Carmina Burana, vous l'avez rappelé, écrit en 1937, et ça nous amène de toute façon après la Deuxième Guerre où il réussit à franchir les fourches de la dénazification menée par les Américains, puisque vous écrivez dans votre livre Karl Orff aux éditions Blenu Éditeur qu'il est classé gris. C'est acceptable.
Oui,
Donc il passe à
il
travers.
est passé à travers, parce que
Oui.
je rappelle ce qu'on a dit dans la première édition, c'est que Orff détestait le nazisme, était vraiment complètement étranger d'ailleurs à toute considération politique. S'il l'intéressait, c'était la musique. Et donc voilà, simplement, comme il était assez pauvre, il a accepté un certain nombre de commandes du régime après Carmina Burana, ce qui fait que bon, il a été sous cet aspect-là un petit peu compromis.
Vous écrivez concernant Carmina Burana, Denis Fureau, dans votre livre, que l'instrumentation est antiromantique. S'agit-il, alors que voulez-vous dire par antiromantique? Et s'agit-il là d'une caractéristique qu'on va retrouver dans les autres compositions que vous allez nous présenter, celles d'après la guerre?
Oui, bien sûr, il va y avoir beaucoup de points communs, notamment un recours assez massif aux percussions, y compris au piano qui est conçu comme un instrument de percussion. Vous savez que le piano est parfois conçu comme effectivement un instrument de percussion. Et donc, dans les œuvres qu'il va élaborer ensuite, il va même développer de plus en plus un ensemble instrumental de plus en plus varié, avec énormément aussi d'instruments exotiques. Il était passionné par les instruments d'autres continents. Et ça va atteindre après une démesure assez incroyable, un peu parfois, je pense, disproportionnée, notamment dans ses dernières œuvres où la voix est prédominante par rapport à la musique, mais où l'orchestre est composé de plus en plus d'instruments exotiques.
Après la guerre, donc nous allons nous attacher à ces compositions après la guerre. Après la guerre, a-t-il une fonction particulière autre que celle de compositeur?
Non, 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 il va se lancer dans la composition de plusieurs cantates scéniques, là, et puis ensuite d'opéra, mais il ne va plus être chef d'orchestre ou voilà, donc il va se composer entièrement à la
Ah, tiens, la composition.
composition.
Qu'est-ce que c'est qu'une cantate scénique?
C'est une notion qui se distingue un petit peu par rapport à l'opéra, où l'opéra, il y a une histoire, il y a un récit finalement qui est déployé. Dans la cantate scénique, en fait, il y a différents poèmes ou différents textes qui sont mis en musique, en fait. Et on va retrouver ça donc dans Catulli Carmina, donc qui est l'œuvre qui va succéder immédiatement après Carmina Burana. Donc, Catulli Carmina, ça veut dire en fait les chants de Catulle, parce que c'est une œuvre qui met en musique des poèmes de Catulle, qui est un poète du 1er siècle avant Jésus-Christ, que Orff avait découvert lors d'un voyage en Italie. Il avait commencé à mettre en musique un certain nombre de poèmes de Catulle, et là, il les a repris et développés. Alors le thème des Catulli Carmina, qui est aussi donc une cantate scénique, c'est les affres amoureux de Catulle, en fait. Voilà, notamment pour une certaine lesbia ou lesbie, donc une patricienne, et donc voilà.
C'est une cantate en latin?
Oui, entièrement en latin,
Entièrement en
oui,
latin,
entièrement en latin,
oui.
qui dure une quarantaine de minutes, c'est pas très long. Et je vous propose d'écouter maintenant le prélude. Alors, avant d'écouter cet extrait, je vais vous expliquer un petit peu. On voit sur l'avant-scène des jeunes gens, enfin, des jeunes garçons et des jeunes filles, et tout au fond des vieillards. Et il y a un chœur qui chante un chœur un peu dionysiaque qui est accompagné par le martèlement des pianos et qui chante, les jeunes chantent Hesayona Tuissum, c'est-à-dire pour toujours, je suis à toi, sur un rythme assez soutenu, comme on va entendre. Donc, ils déclarent ensuite leur flamme, ma chérie, mon ami chérie, mon amour. Et les jeunes filles répondent, mon amour, dis-moi. Dis-moi que tu m'aimes. Et l'excitation va être, va grandir au cours de, voilà, de cette œuvre. Donc, je vous propose maintenant d'écouter le premier extrait.
Superbe extrait en effet de Catulli Carminas, donc tout en latin, Denus Euro. Souhaitez-vous faire un commentaire particulier après avoir écouté cet extrait musical qui répond d'ailleurs à la première remarque de nos auditeurs, qu'il dit que c'est la première fois qu'il entend parler de Carmina Burana et de Karl Orff, qui ne le connaît pas, avoue-t-il, pouvez-vous nous faire écouter un extrait? Eh bien, ce soir, chers auditeurs, c'est une émission musicale consacrée à Karl Orff. Donc, vous allez écouter plusieurs extraits.
Oui, mais pas de Carmina Burana.
Non, pas de Carmina Burana, bien sûr.
Il faudrait que l'auditeur écoute la précédente émission. Donc, voilà.
Oui.
Donc, oui, alors, sans avoir le succès de Carmina Burana, les Catulli Carmina, donc les chants de Catulle, ont connu de nombreuses versions avec des grands chefs d'orchestre, notamment Eugène Jochum. Et elle est encore fréquemment jouée en dehors de l'Allemagne, en Slovénie, Roumanie, Suède, Bulgarie, aux États-Unis, au Japon, en Espagne, en Italie, au Danemark, en Pologne. Pas tellement en France, effectivement. Oui.
Et est-ce qu'en matière de style musical, on est dans la lignée justement de Carmina Burana, avec ce que vous venez de nous faire écouter, Catulli,
oui,
Carmina?
Mais avec
qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui est différent?
Alors, ce qui est le style n'est pas... pas très différent. Par contre, c'est une œuvre qui a davantage d'unité. Carmina Burana, c'est vraiment une succession de poèmes qui n'ont pas grand lien les uns avec les autres. La Catulli Carmina et l'œuvre dont on va parler maintenant, le Triomphe d'Aphrodite, présente justement un caractère beaucoup plus unitaire. Donc, voilà, peut-être une plus grande cohérence. Donc oui, alors je parlais du Triomphe d'Aphrodite, donc qui a été la troisième troisième œuvre qui compose en fait ce qu'on appelait les triomphi, les triomphes, parce que les trois œuvres ont été regroupées sous ce vocable par Karl Orff. Alors, Triomphe d'Aphrodite, en fait, est composé à nouveau de poèmes latins de Catulle, mais également de poèmes grecs de Sappho, qui était une poétesse du 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est une œuvre qui a été créée en 1953 sous la direction d'Herbert von Karajan. Karajan a interprété de nombreuses œuvres de Karl Orff. Et donc là, il s'agit essentiellement d'une représentation d'une cérémonie nuptiale antique, en fait. C'est un peu finalement un rite, le rite nuptial. Là, encore une fois, on va voir le style musical d'Orff qui va pousser ici à l'extrême d'un peu le procédé de stylisation, de musique élémentaire. C'était un concept qu'il avait développé.
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce concept de musique élémentaire selon Karl Orff?
En fait, c'est d'essayer de susciter chez l'auditeur une émotion puissante, en fait. D'essayer de viser à l'essentiel, en fait. Voilà. C'est un peu plus compliqué que ça, mais bon. Et donc, Triomphe d'Aphrodite, qui est aussi une œuvre qui n'est pas très très longue, hein, je crois que c'est une quarantaine de minutes, est dominée par des développements, ce qu'on appelle des ostinati, superbes, vraiment extatiques. Donc là, nous allons écouter un autre extrait qui est le cortège nuptial. Donc, en fait, au début de l'œuvre, on entend le chœur qui appelle en fait, c'est Hymenho Hyménée, c'est le dieu du mariage. Donc c'est un appel au dieu du mariage. Et là, donc, le cortège nuptial arrive. Et là, le texte grec est tiré donc des épithalames de Sappho. Alors vous avez le beau fiancé qui s'approche, splendide comme Arès, le dieu de la guerre. Et on lui dit, tu as un beau visage et des yeux magnifiques. Et le cœur s'adresse successivement à lui et à sa fiancée.
Une question, Denis Chiraud. Cette œuvre, donc le Triomphe d'Aphrodite, mêle à la fois des poèmes latins de Catulle, avez-vous précisé, et des poèmes grecs de Sappho. Comment lit-il les deux? Comment mélange-t-il eux? Parce que c'est une même histoire qu'il raconte. Et comment passe-t-il du latin au grec, hein?
Oui, bah écoutez, il y a des chœurs de Catulle, il y a des chants de Sappho. Non,
Et
c'est
on
pas,
passe.
non, il n'y a pas de, il n'y a pas de.
Ça fait poser la question, est-ce que les paroles ont vraiment une importance dans cette musique? Parce que latin, grec, c'est un peu inaccessible à la compréhension, surtout dans, j'allais dire, dans un opéra, mais dans une cantate scénique. Est-ce que ça a de l'importance par rapport justement au but que vous avez exprimé, présenté de Karl Orff, qui est vraiment de susciter une émotion par une musique que vous avez qualifiée, je crois, de primaire, non, c'est ça?
Mais élémentaire,
Élémentaire,
élémentaire, oui,
pardon.
élémentaire.
Élémentaire. Est-ce que le latin, grec, les paroles, est-ce que ça finalement ça a de l'importance?
Ici, ça a une importance moins décisive que dans les œuvres postérieures où
D'accord.
on va voir que le texte est plus important. Là, surtout qu'il y a des répétitions. Là, par exemple, vous avez l'appel à la déesse, au dieu grec du mariage, la Hyménée, c'est répété un certain nombre de fois, donc ça pose pas énormément de difficultés de compréhension.
Donc l'important de ces deux pièces, finalement, c'est l'émotion qu'elles créent,
Oui,
ces deux pièces, par la musique.
oui,
C'est
oui,
ça avant
oui,
tout,
oui, oui,
bien avant l'œuvre littéraire en
oui,
quelque
oui,
sorte, parce
oui.
que nous verrons par la suite, effectivement, vous l'expliquez dans votre livre, qu'il va écrire des livrets
Oui,
aussi. Il
alors
va,
après, ça va être
après, ça
tout à fait
sera le cas
différent.
après.
Oui.
Donc je vous rends la parole, Denis, pour nous expliquer,
Donc,
nous présenter le morceau, hein,
voilà.
l'extrait donc du Triomphe d'Aphrodite.
Donc, voilà, c'est le cortège nuptial. Donc, vous avez le fiancé qui arrive et le chœur va s'adresser successivement donc au fiancé magnifique et à sa fiancée. Thank you.
Eh bien, Denis Chéreau, après avoir écouté cet extrait donc du Triomphe d'Aphrodite sur des poèmes latins de Catulle, les Grecs de Sappho, je vous propose de poursuivre en effet les œuvres, l'étude des œuvres donc de Karl Orff après Carmina Burana, et vous nous proposez là deux contes.
Oui, alors Orff va composer deux opéras où il a parlé plutôt d'oratorio scénique. Bon, ce sont quand même des petits opéras. Le premier, c'est Der Mond, donc ça veut dire la lune. C'est tiré en fait d'un conte populaire des frères Grimm, à partir de sources germaniques et celtiques.
C'est quelle époque les frères Grimm de Denis Chéreau?
Alors, c'est le 19e siècle, 19e siècle, il me semble.
Le fameux conte de Grimm.
Voilà. Et donc, cette pièce a été jouée la première fois en 1939, mais elle a été revue après, elle a été diffusée à la radio bavaroise. Et Orff le présente comme une pièce de ce qu'il a appelé un petit théâtre du monde, Kleines Welttheater. Et ça sera complété par une autre œuvre dont on va parler après, qui est Die Kluge, la femme avisée. Alors, cette œuvre, elle a été également jouée dans de nombreux petits et grands théâtres, aussi bien à New York, Stuttgart, Bruxelles et en France aussi. Elle a été jouée même dernièrement, en 2010 à l'Opéra Bastille et en 2020 à l'Opéra National de Lyon. Elle a connu aussi des adaptations en théâtre de marionnettes. Et donc, c'est une histoire assez amusante, en fait, de trois vagabonds qui vont voler la lune, parce que dans leur pays, il n'y a pas de lune. Donc, ils achètent la lune, ils l'emmènent dans leur pays, et puis ils meurent successivement, et chacun emporte un morceau de la lune aux enfers. Et donc, aux enfers, cette lune va déclencher une espèce de grande fête, jusqu'à ce que le maître des enfers, qui est un certain Peter, au début c'était Saint-Pierre, mais l'Église a trouvé que c'était assez inconvenant, donc il a dit que c'était Peter, c'était pas vraiment Saint-Pierre. Et donc, ce Peter va dire... Bon, les morts commencent à boire, à danser, à faire la foire, et Peter, dans un premier temps, s'amuse aussi, puis il dit, bon, ça suffit comme ça, et il faut rendre la lune. Et donc voilà cette histoire.
Et ils rendent la lune, alors.
Et ils rendent la lune. Donc voilà, c'est une très jolie pièce. Et ce que je vous propose d'écouter, c'est le tout début, qui est un récitatif arioso. Donc, je vais vous lire pour que vous compreniez un petit peu, pour ceux qui ne sont pas germanophones. Il était une fois un pays où la nuit était toujours noire et où le ciel était tendu comme un drap noir, car la lune ne s'y levait jamais et aucune étoile ne brillait dans les ténèbres. Lors de la création du monde, la lumière nocturne n'avait pas suffi. Il advint que quatre garçons quittèrent ce pays pour partir en voyage. Ils arrivèrent dans un autre royaume où le soir, quand le soleil avait disparu derrière les montagnes, une boule lumineuse qui diffusait au loin une douce lumière était accrochée à un chêne. On pouvait tout voir et tout distinguer, même si la lueur n'était pas aussi brillante que celle du soleil. Donc voilà le début.
Et ça,
de
c'est chanté dans l'œuvre.
Bah oui, vous allez, c'est chanté,
c'est en allemand.
Récité, et c'est en allemand, oui.
Puisque
le club est en allemand, oui.
Oui. Alors vous écrivez d'ailleurs dans ce livre consacré à Karl Orff, Denis Chéreau, que vous publiez aux éditions Bleu Nuit Éditeur, qu'il y a beaucoup de clins d'œil et d'humour dans cette œuvre naïve et onirique. Il y a un lien avec la pièce qu'il avait conçue lorsqu'il était tout jeune, sorti à peine de l'enfance. Oui. Ces marionnettes, il y a un lien avec ça ?
Ah oui, je crois qu'effectivement, lors de la précédente émission, j'avais effectivement rapporté qu'on avait offert au jeune Karl Orff, je crois qu'il a une dizaine d'années, un théâtre de marionnettes et qu'il avait commencé à inventer des histoires accompagnées accompagnés de musique et de bruit. Ils prenaient des casseroles pour faire des grondements de tonnerre, etc. Bah, finalement, on retrouve ici le goût du jeune Karl Orff pour les histoires. C'est ce qui explique pourquoi cette œuvre a été aussi adaptée pour un théâtre de marionnettes.
Mais en la matière, Karl Orff n'a pas d'intention particulière en racontant cette histoire. Il raconte un conte de Grimm
Oui.
qui lui a plu et qu'il compose en
Oui,
musique, c'est
voilà,
ça.
oui. Il n'y a
Bon.
pas de, il y a pas, il y a pas de message subliminal. Et...
Alors nous écoutons donc le choix que vous avez fait de l'extrait, c'est-à-dire
Donc,
de
c'est
Michiru.
le début, donc, qui correspond au texte que j'ai lu. Il était une fois.
D'accord.
Aus diesem Land, aus diesem Land, gingen einmal vier Burschen auf die Wanderschaft und gelangten in ein anderes Reich, wo abends, wenn die Sonne hinter den Bergen verschwunden war, auf einem Eichbaum,
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, en cette première partie du Journal des Amitiés Françaises, du Libre Journal des Amitiés Françaises, nous avons le plaisir de recevoir Denis Fureau à l'occasion de la publication de son livre aux éditions Bleu Nuit, de son livre consacré à Karl Orff, le titre du livre d'ailleurs, Karl Orff. C'est la deuxième émission que nous réalisons avec Denis Fureau sur ce compositeur. La première émission nous avait amené jusqu'à à peu près la Deuxième Guerre mondiale et surtout la création de Carmina Burana, cette opéra scénique qui écrase un peu toute l'œuvre. Hein. C'est la Denis Giraud nous l'a précisé, c'est l'œuvre la plus jouée au monde avec le Boléro de Ravel. Et malheureusement, on peut regretter que Carmina Burana écrase tout le reste de l'œuvre de Karl Orff, qui mérite aussi beaucoup d'intérêt. Et c'est ainsi que cette deuxième émission, et bien la suite chronologique d'ailleurs de la première, nous la consacrons à Karl Orff, compositeur, après Carmina Burana. Et c'est ainsi que Denis nous a présenté déjà un certain nombre d'œuvres comme Catulli, Carmina et là, Dermont. Denis Giraud, je vous donne la parole. Vous voulez faire un commentaire.
Tout à l'heure, une auditrice nous a dit qu'elle ne connaissait pas Carmina Burana.
Mais qu'elle ne connaissait pas Karl Orff non plus, je crois.
Et donc, pour lui être agréable, des extraits de Carmina Burana seront diffusés à partir de 21h sur Radio Courtoisie, spécialement à son attention.
Ah ben, on retrouve là, Denis Giraud, toute votre délicatesse et tout votre intérêt pour les auditeurs de la radio. Et donc, vous nous avez présenté cet extrait de Dermont, qui est un oratorio scénique à partir des contes de Grimm. Il y a une grande diversité de textes chez Karl Orff. Il s'intéresse à ses goûts littéraires sont extrêmement variés, puisque oui. La pièce précédente, c'est à partir de Catulle et la poétesse grecque Sappho. Là, on est sur les contes de Grimm. Quels sont ses goûts littéraires? Comment fait-il ses choix, justement, de textes, Denis Giraud?
En fait, Orff était un humaniste au sens plénier du terme, quelqu'un qui avait une culture littéraire considérable, en fait. Même s'il n'a pas fait d'études scolaires très poussées, en fait, il avait une passion quand même pour les textes qui soient en vieil allemand, en grec, en latin. Et donc, effectivement, on va retrouver cet appétit pour les différentes littératures à travers ces œuvres et les œuvres dont on va parler tout à l'heure. Oui.
Alors, permettez-moi de vous lire quelques lignes de votre livre sur Karl Orff, à Bleu-Nu, éditeur, Denis. Il y aurait un contresens, écrivez-vous, à définir Karl Orff comme un seul compositeur de musique, car son ambition esthétique était la création de pièces de théâtre musicales où le texte prédomine, la musique n'intervenant en alternance que pour souligner la dimension dramatique de l'action. Mais quand le texte est en vieil allemand, en latin ou en grec, tout de même, heureusement qu'il y a la musique, surtout pour nous Français.
Oui. Alors là, nous écoutons des extraits musicaux, mais il faut savoir que à partir des œuvres dont on parle maintenant, une grande partie de ces œuvres sont des œuvres récitées, hein, où le texte n'est pas accompagné de forcément de musique. Donc, alors c'est vrai que ça va limiter l'audience de ces œuvres en dehors du monde germanique, évidemment. Mais c'est vrai que le souci d'Orff, c'était d'associer toujours le texte, la musique et le geste, en fait. C'était cette motivation qui l'avait incité à développer une pédagogie musicale, justement, destinée aux enfants, où le texte, la musique et le geste sont imbriqués, l'un soutenant l'autre. C'est ce qui va d'ailleurs le distinguer, on verra peut-être plus tard, mais d'autres compositeurs, par exemple Stravinsky, pour Stravinsky, c'est la musique qui compte, et pas le texte à la limite. Pour Orff, c'est de plus en plus le texte qui doit entraîner la musique. Et on va voir ça dans ses opéras, mais c'est vrai que... Orff ne se définissait pas comme un pur compositeur de musique. Quoi. Son projet, effectivement, dépassait le pur champ musical pour aborder les différents domaines du théâtre, de l'opéra. Voilà.
Alors, voilà. Quelle pièce...
Alors, l'autre...
Voulez-vous nous présenter quelle autre composition, donc toujours cet ordre chronologique, hein. Nous sommes là, dans, en gros, dans l'après-guerre, hein, dans le juste après-guerre.
Alors, il y a une autre œuvre, une deuxième pièce du Petit Théâtre du Monde, vous savez que ça s'appelle Die Kluge. Alors, Die Kluge, c'est un peu difficile à traduire. En français, on dirait c'est la rusée, la maligne, parce que la personnage principal est une femme qui est une astucieuse, qui va trouver des stratagèmes. Alors, c'est une œuvre qui a attiré l'attention de critiques qui n'aiment pas forcément Carmina Burana et qui trouve à cette œuvre vraiment des qualités remarquables. Et c'est une œuvre donc qui a rencontré un très grand succès en Allemagne, mais aussi à travers le monde, quasiment sur tous les continents, avec des adaptations. Par exemple, et donc dans cette œuvre, l'histoire d'un roi, et au Japon, le roi est habillé en samouraï, tandis que la femme avisée, la Die Kluge, a porté un kimono. À Cleveland, donc l'œuvre a été interprétée par une troupe de chanteurs et de comédiens noirs. À Rome, ça a été interprété plutôt sur le mode de la commedia dell'arte. À Bruxelles, il y a eu une version française qui a été créée sous le titre « Échec au roi ». Cette œuvre a été aussi donnée à Paris en 1963 et à Mulhouse en 1968. Elle aurait été jouée dans plus de 200 théâtres et traduite dans une vingtaine de langues, y compris le russe. Il y a un téléfilm qui a été tourné, et là encore, une deuxième fois, il y a eu des adaptations pour théâtre de marionnettes à échelle humaine, voilà.
Quelle est l'histoire, quelle est son inspiration?
Alors, l'histoire, en fait, c'est aussi, au départ, un conte des frères Grimm, mais que Orff a profondément retravaillé, complété avec d'autres éléments, avec notamment une version kabyle qui lui avait été donnée par un ethnologue africaniste, Léo Frobenius. Parce qu'en fait, le thème de la femme avisée se retrouve dans de nombreuses cultures, y compris en Inde, y compris dans certaines sagas islandaises. Donc, vous voyez, c'est un thème presque universel. Alors, c'est une histoire qui est absolument pas de caractère historique. Il s'agit plutôt d'une sorte de parabole avec des personnages assez pittoresques et surtout qui est truffé de jeux de mots. Vous avez des énigmes, des proverbes, des dictons, des paradoxes. Et donc, il y a aussi des allusions. Cette pièce a été jouée pour la première fois à la fin de la guerre, puisque c'était en 1943. Et en fait, il y a tout un passage, en fait, où le roi est moqué. Alors, il y a toute une tirade, en fait, des vagabonds qui récitent une litanie sur le triomphe des vices, sur les vertus dans le royaume. Il dit « Fides est mise à mort, la foi est mise à mort, la justice vit en grande pauvreté, la piété couche sur la paille, l'humilité crie à l'assassin ». Et la patience a perdu la bataille, la vérité s'est envolée vers le ciel, la vertu est chassée du pays, infidélité et méchanceté sont restées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la pièce a été interprétée, il y a eu des spectateurs qui ont interprété ça comme une critique du régime nazi, la disparition en fait de la morale sous le nazisme, et il y a eu des applaudissements. Ce qui fait que la pièce a été interdite après dans un certain nombre de villes en Allemagne, parce qu'il y avait un caractère subversif, discret, mais sous-jacent. On ne trouvera jamais dans les œuvres de Karl Orff une quelconque complaisance pour la tyrannie, le pouvoir, la force brutale. Il y a un aspect quand même un peu anarchisant, finalement, dans cette vision.
Alors, l'œuvre suivante, c'est un peu un tournant dans ses compositions, Denis Chéroux. L'œuvre suivante que vous souhaitez évoquer.
Alors, c'est une très belle œuvre, ce qui est dit Bernau Ehrin. Bernauer Rins, c'est, on peut traduire ça par la, la fille de Bernauer. C'est la fille d'un... vous savez, en allemand, Bernauer, Bernauerin, la fille de Bernauer. Donc, c'est une pièce bavaroise. Orff en a écrit à la fois la musique et le livret. Elle a été interprétée pour la première fois en 1947. Et le rôle principal était même interprété par Godella Orff, qui était la fille du compositeur, son unique enfant. Alors, Agnès Bernauer, c'est une tragédie qui a été publiée par un certain Friedrich Hebbel en 1855. C'était un poète et dramaturge. Et lui-même s'est inspiré de récits historiques sur Agnès Bernauer, qui est une Bavaroise du XVe siècle, qui a été noyée dans le Danube après avoir été condamnée pour sorcellerie, en fait. Il faut savoir d'ailleurs que c'est assez amusant que Jacques Prévert, qui était un ami de Karl Orff, a aussi écrit un texte inspiré d'Agnès Bernauer, mais on ne sait pas si ça a un lien avec l'œuvre de Karl Orff.
Deux personnalités qui paraissent pourtant très opposées.
Oui, mais justement...
Prévert et Karl Orff, comment ça se fait et comment se sont-ils rencontrés,
alors,
d'ailleurs?
Effectivement, ceux qui s'imaginent que Karl Orff était une sorte de nazi primaire, etc., oublient qu'il était dans les années 20 et 30, plutôt, je dirais, on dirait aujourd'hui, il était plutôt de gauche bobo. Hein. Il était ami de Bertolt Brecht, qui allait devenir un marxiste pur et dur. Il fréquentait les milieux sociaux-démocrates. Donc, après la guerre, en fait, il s'est pris d'amitié avec Jacques Prévert. Il a remis à Jacques Prévert un de ses disques avec une dédicace pour Picasso. Enfin, voilà, c'est assez... Effectivement, ça peut être étonnant, mais c'est qu'il faut découvrir la véritable personnalité de Karl Orff, qui ne rentre pas dans des cases, effectivement, les cases courantes où on voudrait l'enfermer. Donc, Bernauerin, c'est une œuvre où il y a beaucoup d'éléments, il y a des récitatifs, il y a des chants, et donc vous avez un chœur dans une taverne qui fredonne une vieille chanson, et l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'Albrecht, qui est le duc de Bavière, qui est le fils unique du duc Ernst, qui régnait à Munich. Et il rencontre, en fait, dans une étuve. Les étuves, c'était des espèces de bains publics, assez mal famés, à vrai dire. Et il rencontre la fille de Bernauer, donc, qui s'appelle Agnès, et qui était une servante de bain. Et là, c'est le coup de foudre. Le coup de foudre, et le jeune duc, donc Albrecht, veut épouser cette belle Agnès. Et évidemment, son père n'est pas du tout d'accord. Alors, ça jase beaucoup. On dit c'est une fille qui vient d'un véritable lupanar, vraiment. Alors que c'est une fille absolument vertueuse, mais... Et donc, il y a un drame qui va s'intensifier jusqu'au point que le père, donc, du duc Albrecht va fomenter, en fait, une sorte de complot pour se débarrasser d'Agnès Bernauer. Et donc, il va y avoir à la fin, en fait, la foule qui va précipiter Agnès Bernauer dans le fleuve. Elle va se marier. Et donc, à la fin, le jeune duc Albrecht, évidemment, qui était absent, revient et dit qu'il va détruire Munich, mettre le feu à Munich pour vengeance. À ce moment-là, on apprend la mort de son père. Et
il devient...
Et donc, finalement, il renonce à cette vengeance. Et dans les dernières scènes, en fait... Il y a une sorte d'apparition surnaturelle où on voit la voix, on entend la voix d'Agnès qui apparaît dans le ciel et qui voilà. Alors Moi, dans le livre, j'ai été très frappé par l'inspiration chrétienne de d'Iberna Aurin, parce qu'en fait, je ne suis pas sûr que d'ailleurs d'autres critiques aient relevé ça, mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que à la veille de l'arrestation d'Agnès Bernauer, c'est un peu comme le Christ au Jardin des Oliviers, elle prie la Vierge Marie. L'arrestation a lieu de nuit parce que c'est l'heure de la violence et des ténèbres. Comme dit Agnès Bernauer, c'est exactement la citation en fait, du Christ dans l'Évangile selon saint Luc. Tant le Christ qu'Agnès Bernauer sont condamnés par un pouvoir inique avec la complicité d'autorités religieuses corrompues. Dans d'Iberna Aurin, c'est un moine fanatique. Et dans l'autre cas, évidemment, c'est les grands prêtres juifs. Et dans les deux cas, on a aussi cette foule qui a été manipulée avant de s'apercevoir de son erreur. Vous savez, après la mort du Christ, le centurion qui est au prix de la croix s'exclame « Vraiment, celui-ci est fils de Dieu !» Et après la mort d'Agnès, quelque chose résonne sous terre. On entend des ombres, on voit des ombres qui se meuvent, qui crient vengeance, et le peuple reconnaît innocente, elle fut condamnée à mort.
Alors Denis Chiroux, vous écrivez dans votre livre consacré à Karl Orff que la diction de cet opéra, c'est un opéra, on peut le dire, de cet opéra bavarois, est une diction diatonique. Qu'est-ce que c'est qu'une diction diatonique ?
Voilà, vous me posez une colle, alors.
Ah bon? Ah, mon Dieu. Écoutez, vous reviendrez nous donner la réponse. En tout cas, c'est ce qui caractérise cette pièce. Et je vous propose d'écouter. Stéphane nous a sélectionné un extrait, justement. On le remercie très chaleureusement. Il nous a sélectionné un extrait de cet opéra bavarois d'Iberna Aurin, comme c'est une pièce fameuse quand même de Karl Orff. Eh bien, je vous propose, si vous en êtes d'accord, Denis Chiroux, que nous écoutions cet extrait.
Das Spiel von der Bernauerin, der Erstteil von Albrechten, Herzog in Bayern und seiner Buhlschaft mit Agnes Bernauer, der Bernauerin, ist eines Baders Tochter zu Augsburg gewesen, vor itzo mehr denn 500 Jahren, zu der Zeit, da Bayern das bayerische Land zerschlissen durch unselige Zwiespälter und aufgeteilt war in drei Teilen und Albrechtens Vatern Herzog Ernst zu Monichen regiert hat.
Nissoro, souhaitez-vous commenter cet extrait que nous venons d'écouter de cet opéra bavarois?
Oui, alors c'était effectivement c'est l'introduction de d'Iberna Aurin, donc Agnès Bernauer, donc cette œuvre de Karl Orff, très inspirée, qui a aussi été admirée par un certain nombre de critiques qui n'apprécient pas forcément toute l'œuvre de Karl Orff, mais qui sont sensibles vraiment à son, à cette, à ce sens à la fois dramatique, musical.
Vous souhaitiez aussi nous signaler d'autres pièces bavaroises écrites à la suite d'Hibernaourin.
Alors oui, il y a eu plusieurs pièces plus courtes, notamment deux qui sont données très régulièrement par la radio bavaroise à l'occasion de Noël et de Pâques. Alors pour Noël, c'est Ludus de Nato Infante Mirificus, c'est une sorte de conte de Noël, très librement inventé par Karl Orff, où bon, il y a beaucoup de passages parlés, hein, les éléments musicaux sont assez limités. Il y a une autre pièce donc pour Pâques, c'est une sorte de jeu pascal, Oysterspiel, c'est le Comédia de Christi Resurrectione, donc comédie de la résurrection du Christ. Ce sont des œuvres qui s'inscrivent un peu dans la tradition des mystères médiévaux. Vous savez, au Moyen-Âge, on aimait bien créer des pièces de théâtre qui étaient parfois jouées devant les cathédrales et qui étaient inspirées librement de la foi chrétienne. On inventait des personnages. Voilà. Donc, ça, ce sont deux pièces qui ont été jouées très souvent à la radio bavaroise, régulièrement. Et donc voilà, mais ce sont des œuvres, ce sont pas des œuvres majeures de Karl Orff, mais l'idée c'était un petit peu de mettre en valeur des éléments de l'histoire sacrée chrétienne en fait dans une vision catholique qui au sens un peu universel du terme.
Quels sont les sentiments religieux de Karl Orff?
Ah, alors ça c'est une grave question parce qu'en fait. Dans notre précédente émission, je crois que je vous avais dit que Karl Orff s'était détaché de la pratique religieuse catholique de sa famille à l'adolescence. Sans doute, il y a eu un drame. Je crois qu'il y a eu la mort d'un ami. Ce qui fait que Karl Orff, pendant toute sa vie, n'a pas été du tout un catholique pratiquant. Mais, par contre, il était profondément imprégné d'un catholicisme culturel bavarois. On peut pas imaginer la Bavière sans le catholicisme. Et on trouve énormément d'éléments comme ça, chrétiens sous-jacents dans ses œuvres. Des éléments païens, évidemment, aussi, parce que dans les œuvres dont on a parlé précédemment, il y avait aussi ces références aux œuvres de l'Antiquité grecque et romaine. On reviendra peut-être tout à l'heure à la fin de sa vie, justement, oui. Puisque sa dernière œuvre est une véritable œuvre chrétienne. Oui. Donc, voilà.
D'accord, moi, je propose que vous réabordiez ce point à ce moment-là. Nous sommes à peu près entre les années 1950-1960, et là vient le temps des créations des tragédies grecques.
Oui, alors Orff, là, va changer complètement de registre. Et va donc composer donc la musique pour trois grandes tragédies qui sont les deux pièces de Sophocle, Antigone et Œdipe, et la pièce attribuée à Eschyle qui est Prométhée. Alors pour les deux œuvres de Sophocle. Il s'agit de la version, donc une traduction en allemand par Friedrich Hölderlin. Alors Hölderlin, vous savez, c'était un grand poète, un philosophe idéaliste allemand, et ses traductions, en fait, ce sont de véritables œuvres littéraires, en fait,
Écrivez, pardonnez-moi, Denis, je vous interromps, mais vous évoquez la superbe traduction allemande d'Hölderlin qui éblouit.
Oui, tous les amateurs justement de littérature allemande connaissent les traductions d'Hölderlin, voilà. Donc Orff a été très sensible à ça pour à la fois mettre en musique et alors ce sont des œuvres où les éléments parlés chantés sont dominants en fait. La musique va se faire de plus en plus rare, en fait, dans, dans ses œuvres même. Et la troisième tragédie qu'il va composer, Prométhée, elle va être récitée en grec d'origine. Ce fait que certains critiques trouvaient que Orff se fichait là un petit peu de la capacité de compréhension de son auditoire. D'autant plus que cette dernière œuvre, Prométhée, en fait, entièrement chantée, est essentiellement récitée en grec, parce qu'elle est très peu chantée, et la musique est de plus en plus rare, en fait.
Pardonnez-moi, c'est une question un peu triviale, Denis. Ouais. Pourtant, vous écrivez concernant Prométhée, donc drame d'Eschyle, vous dites que c'est un succès triomphal, mais vous nous expliquez aussi qu'il y a de moins en moins de musique, de moins en moins de chants, c'est de plus en plus de la récitation. On a un peu de mal à comprendre la plus-value d'un compositeur comme Karl Orff, s'il y a moins de musique, s'il y a moins de chants, et si les acteurs récitent en fait le vieux bavarois, le latin et le grec, de traductions en plus qui ne sont pas de lui, puisque on est sur des traductions de Hölderlin.
Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait c'est du parler chanté. Il y a un concept, un mot en allemand, c'est Sprechgesang. Ce qui fait qu'en fait, Orff s'appuie sur le mot pour le mettre en musique, en fait. Et il développe, en fait, toute une batterie de possibilités. Y a un de des musicologues qui sont, par exemple, qui ont identifié dans Œdipe quatre modes d'expression. Vous avez, par exemple, la voix parlée, avec seulement le rythme qui est indiqué sur la partition. Vous avez la parole libre, mais sur une base musicale, avec parfois un chœur qui l'accompagne avec une base rythmique. Vous avez le mélodrame, qui est une forme particulière de la déclamation libre. Et là, certains mots bénéficient d'un accompagnement, avec en partie une base musicale. Et puis, vous avez encore quelque chose, c'est une façon de prononcer les mots mélodiquement, en fait, plutôt que rationnellement. Et en fait, ces différents modes sont utilisés dans ces tragédies, ce qui fait que ce sont des œuvres qui sont redécouvertes ces dernières années. Elles ont quand même passé à travers elles ont connu un purgatoire quand même. Et puis elles sont redécouvertes, réinterprétées, et on s'y intéresse à nouveau. On découvre des trésors qu'on avait un petit peu oubliés. Personnellement, l'œuvre qui est peut-être la plus forte, c'est la première, c'est Antigone, où là il y a à la fois un sens musical qui est assez magnifique, notamment avec des chœurs qui ponctuent un peu l'œuvre. Il faut savoir que Orff suit strictement le texte de Sophocle traduit par Hölderlin, mais il n'y a aucune coupure, aucune césure. Donc quand Sophocle a imaginé des chœurs, Orff effectivement met en musique les chœurs, etc.
Et pourtant, vous écrivez dans votre livre consacré à Karl Orff aux éditions Bleu Nuit que pour Karl Orff, Antigone, c'est son œuvre la plus radicale, en rupture totale et fondamentale avec le théâtre d'opéra.
Oui, par rapport à ce qui se faisait à l'époque, oui. Même par rapport aux œuvres, par exemple, de Stravinsky. Stravinsky avait aussi composé un Oedipus. Oedipus Rex, en 1927. Mais comme je disais tout à l'heure, il utilisait le langage uniquement pour mettre en valeur sa musique. Et en fait, il s'inscrivait dans la tradition de la primauté de la musique dans l'opéra. Traditionnellement, c'était le son qui primait sur le texte. Et c'est même encore le cas dans le projet d'œuvre d'art total de Wagner. Et ce n'est pas du tout justement la méthode Orff, ça. C'est que vraiment, c'est le texte qui doit inspirer la musique. Donc il y a un très grand respect du texte. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que bon, Orff ne peut pas être considéré avant tout comme un pur compositeur de musique. C'est quelqu'un qui a le souci de composer des œuvres où il y a une harmonie entre le texte, la musique et la gestuelle. Ce qui est le cas dans ces tragédies grecques.
Je crois, Denis, que vous avez préparé un ou deux extraits.
Voilà, alors,
musicaux concernant Antigone. Hein.
On va écouter effectivement successivement en fait un extrait des chœurs d'Antigone, suivi d'un chœur d'Œdipus, donc.
D'Œdipe, hein, c'est Antigone et Œdipe.
Œdipe, Antigone et Œdipe.
D'accord.
Ungeheuer ist viel, doch nichts ungeheurer als der Mensch. Denn der über die Nacht des Meers entgegen den Winter wehrt, der Südwind fährt er aus in geflügelten, sausenden Häusern, und der himmlische, erhabene Erde, die unvergängliche, unermüdete, treibet er auf mit dem strebenden Fluge von Jahr zu Jahr, treibt sein Verkehr her mit dem Rassegeschlecht.
Streckt er und jagt sie.
Und wilder Tiere zu.
Und des Pontos Salz belebte Natur mit gesponnenen Netzen.
Der kundige Mann.
Und fängt mit Künsten das Wild, das auf Bergen übernachtet und schweift. Und dem raumähnigen Rosse wirft er um den Nacken das Joch und den Bergen bewandelnden,
unbezähmten Stier.
Die Rede und den luftigen Gedanken und Städte beherrschenden Stolz hat erlernet er.
Und üblen wohnender Hügel feuchte Lüfte.
Und die Unglücklichen zu fliehen die Pfeile.
Den größesten Weg zu deinem
deinem tödlichen Schicksal. Sehen kann ich nicht dich.
Vieles will ich sagen. Viel Rat, viel Betrachten.
Solch einen Schauder hast du nie.
Bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, après avoir écouté ces extraits des tragédies grecques de Karl Orff, Antigone et Oedipe, je précise que nous avons le plaisir de recevoir en cette première partie d'émission Denis Sureau, à l'occasion de la publication aux éditions Bleu Nuit de sa biographie de Karl Orff. Nous en arrivons maintenant à la fin de la vie et des compositions de l'œuvre naturellement de Karl Orff. Je rappelle que nous avons démarré cette émission avec les œuvres qui succèdent très directement à Carmina Burana et Denis Sureau. Quelle différence quand même de style, d'harmonie entre Carmina Burana et ce que nous venons d'écouter, des extraits d'Antigone et d'Oedipe.
Oui, mais parce que
ce sont dans le même registre.
Oui, mais parce que comme je le disais, c'est le texte qui inspire la musique. Donc, dans Carmina Burana, vous aviez des poèmes de vagabonds, de buveurs de vin du Moyen Âge, de moines un peu défroqués, etc. Donc une ambiance assez joyeuse et assez médiévale. Donc là, nous sommes dans les tragédies, hein, dans les grandes tragédies grecques avec des drames. C'est en partant du texte même de Sophocle et de Ripide, donc Orff conçoit ses œuvres. Oui.
Est-ce que ce sont, autant Carmina Burana, on peut l'écouter sans bien connaître Karl Orff et sans bien comprendre et connaître le registre, mais ses œuvres donc, qui sont pourtant en allemand, puisque c'est la traduction de Hölderlin, hein, pour Antigone, Oedipe, mais aussi Prométhée. Est-ce que c'est accessible en quelque sorte à tous les mélomanes? Ça a l'air difficile quand même.
Vous procurez le texte de Sophocle en français et puis vous suivez l'œuvre. Hein, C'est ce que j'ai fait. Donc après, c'est comme Orff suit strictement le texte de Sophocle. Il n'y a pas de.
Mais la musique apporte quelque chose à la lecture du texte de Sophocle en français.
Je vous laisse découvrir.
Hein. Denis Sureau, vous l'avez fait, vous pouvez nous le lire. Quel effet ça vous a fait?
Oui, c'est bien sûr, il y a des effets de dramatisation.
Oui.
Dramatisation, oui, bien sûr, oui.
Denis Sureau, je vous propose qu'il nous reste un tout petit, 12-13 minutes à passer en votre compagnie pour évoquer l'œuvre finale, en quelque sorte, hein, la comédie de la fin des temps. Et effectivement, c'est bien nommé parce que c'est aussi un peu la fin de notre compositeur Karl Orff. Et puis, avant d'évoquer sa mort, que nous évoquions effectivement son lien avec la religion, et puis aussi la personne qu'il était. Nous n'avons pas évoqué sa personnalité, évoqué donc sa personne.
Alors oui, tout à l'heure, nous évoquions rapidement le rapport d'Orff à la religion catholique familiale bavaroise. Ce que je disais, c'est qu'il s'est détaché jeune de la pratique religieuse et il s'est même rebellé contre les exigences du catholicisme. En plus, il y a eu ce drame d'un camarade de classe qui s'est suicidé, le drame de la Première Guerre mondiale où il a été quand même enseveli alors qu'il n'avait que 22 ans dans une tranchée. Et donc, en fait, il s'est détourné de l'Église, il se voulait libre, et ce qui fait que sa fille n'a pas été baptisée, il interdisait même toute discussion religieuse avec elle. Et sa troisième femme a dit de lui, effectivement, par rébellion, il n'allait pas à l'église, bien que son œuvre soit souvent très religieuse. C'était un homme religieux, mais pas un homme d'église. Et c'est vrai qu'Orff était, par contre, très intéressé par la liturgie, les rituels de l'église. Et À la fin de sa vie, apparemment, il s'est posé quand même beaucoup de questions. Il a beaucoup lu Les Pères de l'Église et il a composé donc une dernière œuvre qui s'appelle Les Temporum Fine Comedia, qui a été terminée en 1971. Et c'est une pièce vraiment très personnelle qui est chantée à la fois en grec, en allemand et en latin. Et c'est l'histoire de la fin du monde. C'est tout simplement la fin du monde. Alors vous avez une première partie où vous avez les sibylles, vous savez, ces sortes de prophétesses qui évoquent les terreurs de la fin des temps. Après, vous avez, en prenant un peu le contre-pied, les anachorètes qui s'opposent à cette vision terrifiante et qui développent une thèse comme quoi tout crime sera expié ici-bas. Alors c'est un vieux thème qui a été condamné par l'Église, qui s'appelle l'apocatastase. C'est l'idée qu'à la fin des temps, tout le monde, y compris les anges et le diable, demanderont pardon et se convertiront. Il y aura une restauration complète. Et c'est ce que raconte en fait cette œuvre, puisque après la déclaration de ces anachorètes, on a une vision des hommes des derniers temps. Alors c'est assez terrible. Il crie « Nous tombons, nous tombons, nous tombons dans la nuit, nous ne sommes pas prêts, nous chutons, chutons hors du temps, à la fin de tout le temps, à la fin de tous les temps. » Et il s'écrie « Seigneur, sauve-nous, préserve-nous, arrache-nous, mets un terme à tout cela. » Et vous avez un commentaire du coryphée qui dit « L'angoisse, l'horreur, la terreur envahit tous. » Et à la fin, il y a Lucifer qui apparaît et qui demande pardon à Dieu. Voilà. Donc, c'est une œuvre assez étonnante, avec une très grande violence parfois dans les chants. C'est une œuvre qui est assez déconcertante. Hein. Je sais que certains spectateurs ne sont pas allés jusqu'au bout, tellement ils étaient terrifiés par cette œuvre. On la trouve dans une interprétation sur Internet. Et en fait, Orff s'était inspiré de la théologie d'Origène, qui était un père de l'Église, qui avait développé cette théorie de la restauration de toute la création dans le Christ. Et c'est une thèse qui a été condamnée par l'Église, en fait. Hein. C'est une thèse qui a été condamnée par
l'Église. Malgré le fait que ce soit Origène, un des pères de l'Église.
Voilà, donc Origène, qui est par ailleurs est un commentateur magnifique de l'Écriture sainte. Mais cette thèse-là, alors c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que la thèse d'Origène est très compliquée. Orff avait lu vraiment Origène, oui. Hein, donc. Ce que j'explique à la fin du livre, c'est que pourquoi l'Église catholique n'accepte pas la thèse de l'apocatastase, c'est qu'en fait, l'ange, à la différence des hommes, en fait, en raison de sa nature purement intellectuelle, est mis d'emblée par rapport vis-à-vis du choix à faire. Et si ce choix, il n'est pas dans un processus discursif, en fait, comme les hommes, donc c'est un choix définitif. Donc, le mauvais ange a fait ce choix et les d'autres avec lui, et donc cette vision origéniste n'a pas été acceptée par l'Église. Cela étant, Orff a précisé que sa comédie là, de la fin des temps n'était qu'un jeu, un spiel, et il a précisé tout cela n'est qu'un rêve, seulement une fantaisie, pessimiste, optimiste, comme chacun veut. Donc,
Denis Furoux, il ne reste malheureusement que 5 minutes à passer en votre compagnie autour de Karl Orff et de votre livre, Karl Orff aux éditions Bleu Nuit. Je voudrais aborder deux points, la personnalité de Karl Orff d'une part et son héritage. Alors, pour sa personnalité, je vais, permettez-moi de lire quelques lignes de votre livre, justement, Denis, et le témoignage d'un moment de sa fille. Sa fille Godella le qualifie d'économe, maître de lui, silencieux, mais manquant de confiance en lui-même. Il a vécu de manière austère et longtemps assez pauvrement la vie d'artiste. Malgré sa vive admiration pour son père, elle brosse un portrait sévère. Pourquoi les génies investissent-ils toute leur force dans leur création artistique, de sorte qu'il ne reste pas assez de place pour les relations humaines? Il était plein de charme, il ensorcelait, il attirait irrésistiblement les gens, il suscitait des attentes, mais ne leur répondait pas. N'avait-il pas la capacité d'aimer? Les sentiments du cœur sont-ils étrangers ou plutôt inconfortables parce qu'ils exigent des sacrifices? Quand je voyais comment il utilisait, trompait et jetait les gens, j'avais honte de lui. Il était très ambitieux. Mon père racontait toujours avec fierté un épisode de son enfance. Son grand-père lui avait demandé ce qu'il voulait devenir. Pour le petit Karl, il n'y avait qu'une seule réponse célèbre. Et comme le petit Karl, le grand Orff. Son objectif en matière de succès, de reconnaissance et de célébrité n'a fait que croître au cours de sa vie. Celui qui se mettait en travers de son chemin était combattu. Il avait besoin des gens, il s'en servait et s'engageait consciencieusement pour lui et ses objectifs, et il est devenu célèbre. D'autres témoignages peignent Orff comme un être égocentrique, manipulateur, peu fidèle en amitié, asocial, mais avide de succès, d'une sensibilité extrême, frôlant la bipolarité avec des humeurs oscillant entre exaltation et dépression, très affectée par les critiques. Mais n'est-ce pas un trait propre à tous les créateurs? De ces expériences, il aurait éprouvé un vif sentiment de culpabilité, en particulier vis-à-vis de ses amis juifs victimes du nazisme et de son attitude vis-à-vis de Kurt Huber. C'est un portrait sévère que dresse sa fille
oui,
de lui.
Oui, j'ai écrit ce livre qui n'est certes pas une hagiographie, car le personnage de Karl Orff ne m'est pas forcément sympathique. Je me suis intéressé très jeune à son œuvre, donc c'est son œuvre qui m'intéresse. Bon, il faudrait aussi rajouter qu'il était d'une infidélité notoire. Sa vie conjugale a été quand même assez compliquée, puisqu'il a eu 4 épouses successives. Entre-temps, il a dû avoir pas mal d'aventures. C'était un personnage moyennement recommandable, on va dire, de ce côté-là. Cela ne l'a pas empêché, évidemment, de recevoir d'innombrables honneurs après 1945. Il a collectionné les prix dans tous les pays du monde. Il a été reçu dans les académies de différents pays. Et à la fin de sa vie, il a réuni en fait une grosse documentation, toute son œuvre en fait, pour expliquer. Donc il était très soucieux de sa transmission. Il est mort donc à 86 ans des suites d'un cancer du pancréas. Donc c'était en 1982 à Munich. Et curieusement, il a été enterré dans une chapelle de l'église du monastère d'Andex, ce qui est un honneur assez inhabituel pour un laïc qui n'a aucun titre de noblesse, et puis en plus qui est un drôle de paroissien. Alors je ne sais pas, hein, je ne sais pas si à la fin de sa vie il y a eu une conversion. Voilà.
Denis Chaud, il ne reste qu'une minute dans notre entretien. Quel souvenir souhaitez-vous que nous conservions de Karl Orff?
Écoutez, je dirais que j'inciterais les auditeurs à s'intéresser à ses œuvres en dehors de Carmina Burana, notamment Catulli Carminal, Triomphe d'Aphrodite, etc.
Voilà. Tel que grâce à vous nous demande de le faire ce soir. Merci beaucoup à vous, Denis Sureau, d'être venu ce soir en direct au micro de Radio Courtoisie. Je rappelle votre biographie de Karl Orff aux éditions Bleu Nuit Éditeur. Merci beaucoup à vous, Denis. Très bel été, très bonnes vacances à vous.